Bien, nous allons passer aux questions. Alors, je vous rappelle la règle du jeu, c'est pas moi qui pose les questions. Ou des remarques.
Bonjour, alors une question peut-être pour Gérard Nerand sur effectivement cette diffusion, cette extension de l'interprétation psychologique et notamment des conceptions comportementalistes de l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine nuance à apporter sur cette diffusion, notamment en France, si on la compare aux pays anglo-saxons et notamment américains, une diffusion qui serait différenciée entre la France et les pays anglo-saxons de ces conceptions comportementalistes de l'enfant, du fait notamment d'une certaine domination de l'approche psychanalytique, du moins encore pendant un temps assez long, dans le champ de la psyché en France.
Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord, hein, il me semble l'avoir évoqué. Justement, cette conception comportementaliste et aussi la conception biologisante pharmacologique hein, qui l'accompagne, connaît en France de fortes résistances. Bien sûr, du fait de la tradition de la clinique psychodynamique et de la psychanalyse, mais peut-être aussi du fait de la tradition culturelle de la France hein, par rapport, on a évoqué hier un certain nombre de différences qu'il pouvait y avoir entre les fonctionnements sociaux américains et français. Et c'est vrai que l'Europe, et plus particulièrement la France, a des moyens de résister à cette logique qui vient de l'Amérique du Nord, beaucoup plus importants que peuvent l'avoir d'autres pays comme le Canada ou comme des pays anglo-saxons qui sont plus ouverts à la logique en question. Donc, mais je trouve que, justement, ce qui apparaît un peu paradoxal, c'est que le mouvement de résistance et même de contre-attaque a mis très longtemps à se développer en France, peut-être du fait de l'éclatement des écoles psychanalytiques et des querelles de clochers dans lesquelles se sont un peu noyés les représentants d'une autre façon d'approcher la question de la subjectivité, parce que ce qui est évacué dans cette approche bio-psychique, c'est bien le sujet. On parle du comportement ou de la biologie, mais le sujet, il disparaît.
D'autres questions ?
En fait, moi, je voudrais essayer peut-être de rassembler les trois présentations en partant de la dernière, puisque mon sentiment, et je voudrais savoir s'il est partagé par les trois intervenants, c'est effectivement l'idée d'aller un peu plus loin, c'est d'une médicalisation du social, et en particulier, on le voit beaucoup dans le vocabulaire. C'est-à-dire que maintenant, on parle beaucoup de traitement, quand on va s'occuper des gens, c'est des traitements. Quand on va s'occuper de l'absentéisme, en fait, l'idée, c'est pourquoi on veut les mettre de côté, c'est parce qu'on a peur de la contamination par les pairs. Enfin, il y a tout un vocabulaire qui vient de l'épidémiologie, qui a l'air de s'intégrer vraiment dans le social. Donc, je voulais savoir si est-ce que vous faisiez ce constat dans vos branches respectives. Et par ailleurs, le problème de cette contamination, justement, de ce vocabulaire, de l'épidémiologie, c'est que, justement, le paradigme de base, c'est la toile d'écho, c'est-à-dire qu'on va avoir des grosses bases de données, on va s'intéresser, on va mettre tout un tas de facteurs de risque, et puis on va avoir une interprétation complètement causale, alors qu'en fait, normalement, en épidémiologie, c'est la causalité probabilistique, c'est-à-dire que c'est plutôt des corrélations, et on passe facilement de cette corrélation à une causalité explicative. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, le responsable, c'est l'individu. Donc, par exemple, ce que nous a dit Étienne, je me souviens plus de son nom, je suis désolé, l'idée que c'est la famille qui est responsable, ou ça peut être l'élève qui est responsable. Et quand c'est pour tout ce qui est lié au corps, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup d'obésité. Bon, c'est pareil, il y a tout un tas d'idées de il faut manger 5 fruits, 5 légumes, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut rien faire, quoi. Et, voilà. C'était un peu ma question.
Juste une remarque, et puis je passe la parole à mes collègues. Je suis d'accord, bien sûr, avec cette idée que le modèle médical, il revient en force sur le devant de la scène, et il est présenté comme étant un paradigme interprétatif. Mais je l'ai évoqué, mais je ne l'ai pas développé, c'est en parallèle au modèle managérial. C'est-à-dire qu'il y a un modèle médico-managérial qui devient le modèle de référence et qui emprunte donc aussi bien à des logiques de rentabilité issues du monde économique qui sont appliquées au secteur social, sanitaire, éducatif, qu'à des logiques naturalistes qui viennent du médical. Et donc cette confrontation paraît, mais elle est à la fois pernicieuse, mais elle est en même temps, pour beaucoup de professionnels, notamment dans le cadre français, elle est extrêmement choquante. Donc elle génère des résistances et des mouvements. Hein. On voit à quel point le nombre de mouvements ont pu se développer depuis une dizaine d'années, parce que l'attaque est trop frontale et aussi elle peut être maladroite. Hein, que j'évoquais la maladresse du ministre de l'Intérieur de l'époque, hein, dont j'ai refusé d'évoquer le nom, mais que vous avez reconnu.
Oui, alors on est allé très vite et comme ça, ça nous donne l'occasion de préciser des choses, c'est bien. Moi, ce que je voulais souligner, je vais revenir sur un exemple, hein, pour répondre directement à ta question. Mais c'est ce que je voulais souligner, que je n'ai pas fait complètement parce que je n'avais pas le temps, mais c'est que précisément c'est important de saisir ces différents lieux d'intervention des transformations en cours, que ce soit dans le champ des savoirs, des apprentissages scolaires à proprement parler, dans un champ intermédiaire dont j'ai peu parlé, qui est celui des dispositifs, et pas seulement des dispositifs de répression, etc., mais de tous les dispositifs de traitement à part, de traitement spécifique de l'élève en difficulté, et puis dans les dispositifs proprement répressifs. Voilà. Et en mettant les choses bout à bout, ça ne veut pas dire qu'elles ont été pensées comme telles, mais elles se sont ajustées les unes par rapport aux autres, avec des intentions générales qui ont renforcé la dynamique à chacune de ces étapes. On comprend ce qui peut être de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la pénalisation scolaire. Voilà. Donc c'était ça sur quoi je voulais insister. Et donc il est important de revenir sur un certain nombre de points justement un peu manquants, et notamment, alors je parlerai du premier degré, puisqu'on n'en a pas du tout parlé, y a peu de travaux hein, sur le premier degré. Mais quelques travaux que je connais montrent assez bien comment s'est transformé le secteur de l'AIS. Comment notamment on est passé dans une logique qui est quasiment, et ça rejoindra ce que dit mon voisin d'une certaine façon. Et c'est intéressant que ça rejoigne parce que le premier degré, c'est entre la petite enfance et le collège. Le premier degré, le traitement de l'AIS, c'est d'une certaine façon engagé dans quelque chose qui ressemble à une espèce de logique de précaution. On serait passé d'une espèce de logique de prévention, c'est-à-dire de faire en sorte que la situation d'un élève en difficulté ne se dégrade pas, mais qu'on prend en charge comme tel, avec toutes les vicissitudes qu'a eu le traitement de la difficulté scolaire dans le passé, avec des stigmates, des définitions médicales très durcies, ou psychologique très durci, qui permettait de mettre les élèves dans des filières repérées, institutionnalisées comme telles, donc les débiles, etc., etc. Bon, je passe, il y en a qui savent mieux en parler que moi, mais bon, voilà. Donc on avait des étiquettes très stabilisées avec des filières de relégation explicite, etc. Cette politique-là, elle a été très critiquée à un moment donné, notamment par les travaux des sociologues. À la suite de quoi, on est passé dans une autre logique qui est double, à la fois parce que les étiquettes sont beaucoup plus floues, beaucoup plus dépendantes des interactions propres aux différents établissements. Notamment, ça passe par les logiques de signalement qui, au départ, devaient se faire dans l'interaction entre le maître de la classe et le maître spécialisé. Et finalement, ça s'est transmué en fiches de signalement avec des codages, avec des formes de catégorisation qui enregistrent et qui contribuent à réifier les catégories spontanées qui sont quasi médicalisées, qui vont être tous les 10, hein, donc 10 orthographiques, dyslexiques, etc. On a une profusion pas complètement stabilisée, pas autant qu'on avait dans le passé, parce que c'est plus aussi légitime, mais on a une espèce de médicalisation profuse, rampante, inorganisée, mais quand même efficiente, parce que finalement, alors, et c'est le deuxième aspect, elle agit moins comme un traitement à part, ciblé sur la difficulté, que avec encore une fois toute la critique qu'on pouvait faire aux dispositifs existants, que comme une mise à l'écart de l'enfant qui peut présenter à terme ce type de symptômes. Et donc ce qu'on voit s'organiser, notamment par manque de moyens sur l'AIS, par manque de réflexion assez politique, par manque, etc., non pas du fait de l'incompétence des gens qui s'en occupent, mais par le processus même, la logique même dans laquelle ils sont pris,
c'est des formes de nomadisme organisé qui consistent à mettre l'élève un peu en dehors de la classe pour certaines activités dans lesquelles il serait censé avoir un approfondissement, ensuite de l'envoyer voir un psychologue, ensuite de faire etc. Et du même coup, il est d'autant moins disponible pour se remobiliser sur les apprentissages centraux qui font précisément problème. En tout cas, c'est ce que pensent les sociologues qui travaillent sur la question et qu'il faudrait traiter très directement. Et voilà. Donc, en tout cas, il y a une logique qui se réorganise d'une espèce de l'ordre d'une espèce de médicalisation rampante et qui participe par ailleurs de cette espèce de désorganisation des cursus scolaires qui produisent les phénomènes qu'on observe ensuite quand ils arrivent au collège.
Et je complète en deux mots, enfin je fais écho en deux mots à ce qui vient d'être dit sur l'idée de causation, corrélation et l'idée de médicalisation. Donc effectivement, la médicalisation rampante à l'œuvre dans le champ scolaire, elle est une des modalités pour moi de l'individualisation des problèmes, qui est vraiment un trait puissant. Et médicaliser les situations, les troubles, comme on peut le dire parfois, des élèves, c'est une façon effectivement d'individualiser ou de décollectiviser ou de désocialiser les problèmes, de rendre l'individu. C'est une façon de décliner finalement une approche substantialiste des difficultés, versus une approche relationnelle qui impliquerait éventuellement l'institution et le collectif des acteurs éducatifs qui sont engagés dans la problématique du décrochage. Et et pour faire le lien aussi sur corrélation et causation, ce qui manque effectivement cruellement dans l'approche du décrochage et de l'absentéisme, c'est une approche telle qu'ont pu effectivement les développer les chercheurs. C'est une approche combinatoire de facteurs. Il n'y a pas un super facteur qui explique, qui détermine mécaniquement le décrochage et l'absentéisme. C'est bien une interrelation de facteurs, de traits. Alors c'est plus long à expliquer, c'est plus long à comprendre, mais c'est certainement plutôt comme ça que ça marche. Plutôt qu'effectivement le divorce des parents, un déficit supposé familial ou une carence ou un choc biographique qui expliquerait à lui seul, ou même un manque de sommeil, puisque souvent on envoie les absentéistes chez l'infirmière ou chez l'assistante sociale en disant il prend du cannabis ou il dort pas assez, et ceci explique cela, l'absentéisme. Bien sûr, ça n'aide pas, mais c'est toujours en interrelation avec d'autres facteurs. Donc effectivement, la question que tu évoques entre corrélation et cause, et puis j'ajouterais multifactoriel, enfin avoir une approche multifactorielle. Bon, je m'arrête là.
Alors, peut-être prendre une série de questions, s'il y en a plusieurs, évidemment.
Déjà, pour revenir rapidement sur la question sur la psychanalyse et avoir l'avis de la personne qui en a parlé. Effectivement, je pense que la psychanalyse, on en reparlera peut-être demain aussi après-midi avec l'intervention sur l'appel des appels, a sans doute été un frein à tout ce processus que vous avez montré. Néanmoins, il me semble, si mes souvenirs sont bons, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec des collègues, je crois qu'il reste 3 départements en France à l'université où la psychanalyse est encore enseignée. Donc là, on assiste quand même à une régression. Donc bon,
et voilà. Elle a disparu de la formation psychiatrique. Ouais.
Oui, voilà, quasiment complètement. Ouais. Mais bon, voilà, c'était juste pour avoir confirmation de ça ou éventuellement affirmation. Mais... Alors, moi, je voulais une remarque rapidement et puis une petite question. Il me semble aussi que dans ce qui a traversé vos 3 interventions et qui a été d'ailleurs très, très clairement formulé à la fin et qui courait déjà un peu hier, c'est effectivement les processus de désubjectivation au sein de la période contemporaine. Et en fait, effectivement, quelques travaux récents dans différents champs disciplinaires ont pu montrer que le processus de subjectivation néolibérale est en fait un processus de désubjectivation totale, alors qui effectivement n'est jamais sans doute formulé intentionnellement, et je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de saisir ça au niveau intermédiaire, mais on peut quand même montrer effectivement un processus. Et dans ce processus, il me semble que vos 3 communications, et déjà hier, ont laissé courir la centralité du langage, ont pointé la centralité du langage. Et il me semble que pour le travail actuel des sciences sociales, il y a vraiment un travail à poursuivre dans un dialogue entre les différentes disciplines, la linguistique et les autres disciplines, la sociologie, la psychanalyse, sur ce travail-là. J'ai beaucoup apprécié une des formules d'Étienne Doigt sur le déclaratif qui s'empile, qui est effectivement une des figures rhétorique, syntaxique et grammaticale qui caractérise ce qu'on a pu appeler la novlangue néolibérale. Donc là, je crois qu'il y a vraiment une ouverture vers quelque chose continuer dans les sciences sociales. Et je voulais juste revenir aussi avec une petite question sur la main gauche et la main droite et le lien qui a été posé depuis hier entre le social, l'économique, le politique et le pénal. Moi, je trouve que l'image main droite, main gauche est particulièrement intéressante dans la recherche, enfin le concept et l'opposition, non seulement parce qu'elle permet de concevoir comme appartenant à un même organisme, contrairement à d'autres dichotomies comme base superstructure qui, quels que soient les liens qu'on peut établir entre les deux, effectivement marquent une séparation, mais aussi parce qu'elle permet de penser les choses de façon dynamique. Et si elle permet de penser les choses de façon dynamique, ça veut dire qu'elle permet de les envisager en termes de prépondérance. Est-ce qu'il y a à un moment donné, par rapport à une situation envisagée, plutôt prépondérance d'un domaine ou de l'autre? Est-ce que vous seriez d'accord avec, après ce préambule, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce qui caractérise vraiment notre tourne, enfin ce qu'on vit là actuellement, vraiment de manière très contemporaine, serait, si ce n'est la volonté de détruire la main gauche, qui effectivement ne s'énonce quasiment nulle part, mais en tout cas l'envahissement de tous ces espaces par la main droite, au point d'abolir l'opposition.
Peut-être s'il y a d'autres questions avant de Pascal.
C'est par rapport à la référence de Bertrand aux techniques de pouvoir de Foucault. Donc si j'ai bien compris, dans ce que j'ai vu de Foucault et dans ce que tu as dit, c'est que ça amène à comprendre comment il y a c'est des techniques qui peuvent échapper à ceux qui les font. Mais je trouve que ce qui devient difficile avec les injonctions de Sarkozy, donc tu viens d'en rappeler une, c'est qu'il ne s'embarrasse pas de bons sentiments. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut réprimer, il cible la catégorie à réprimer, et puis quand même c'est assez bien appliqué. Dans le domaine de la psychiatrie, en fin 2008, il a fait un discours, il a ciblé ce qu'il a appelé les schizophrènes dangereux. Depuis, on monte des murs et des grillages autour des hôpitaux psychiatriques. On interdit de sortie les personnes hospitalisées qui sont en hospitalisation sous contrainte dans les parcs. Enfin, tout va très vite. Donc, est-ce qu'il est indispensable de passer par cette notion de technique de pouvoir qu'une notion subtile par rapport à quelque chose d'aussi brutal que ce qui est en train de se passer maintenant, actuellement?
Je vous laisse répondre.
Disparition de la main gauche, sans doute telle que nous l'envisageons. Enfin, moi, je ne suis pas prophète non plus, hein, mais telle que nous pensons qu'elle puisse être, avec toutes les contradictions d'une institution comme l'école, mais telle que nous pensons que malgré tout, elle puisse assurer quelque chose comme de l'émancipation, comme quelque chose comme des savoirs partagés, comme voilà, etc. Disparition de la main gauche en tant que telle, je ne crois pas. Enfin, ce qui se joue davantage, c'est l'ajustement, en quelque sorte, des façons de faire l'école et des façons de traiter les problèmes que l'école sécrète elle-même. C'est de faire en sorte que ça soit de plus en plus ajusté. C'est pour ça que je parlais de l'insertion. Ce n'était pas pour dire que les politiques de répression n'avaient pas comme source principale. Mais en même temps, enfin, je fais juste une parenthèse, mais c'est pour répondre aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ta remarque. En même temps, moi, la déscolarisation, ce n'est pas un problème distinct. C'est ceux qui le construisent comme distinct qui pensent qu'il l'est. Parce que quand on regarde techniquement, ce n'est que de l'absentéisme en réalité. Il n'y a aucune autre façon de le définir que l'absentéisme. Par contre, le construire comme déscolarisation, ça permet d'y ajouter autre chose qui est justement l'ajustement de la main-d'œuvre sur le marché du travail précaire. Donc voilà, ce qui me paraît important, c'est de voir qu'il y a une convergence possible entre ce qui se joue dans un ordre et ce qui se joue dans l'autre, et là ça peut finir par trouver sa cohérence. C'est peut-être là que je situerai, réponse à la deuxième question, la question des techniques de pouvoir. Il y a une espèce de réorganisation institutionnelle qui s'opère sans forcément que tous les protagonistes de ces politiques soient conscients de cela. Ce qui ne veut pas dire que pour un certain nombre, pour une part, ces politiques ne soient pas délibérées et que Et au contraire, j'ai insisté comme toi sur l'inverse. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas du tout qu'on gagne à dire que tout ça est une espèce de ni de mécanisme général qui s'impose aux acteurs, etc., ni non plus d'une épistémée, enfin, je n'ai pas dit, mais j'aurais pu le dire, mais, ou de technique de pouvoir, etc., qui jouerait à un niveau intermédiaire, dont à la fois personne ne serait le sujet, et en même temps, bon, c'est pas ça que je dis. Je dis, Vacan l'a dit beaucoup mieux que moi hier, mais je pense qu'on peut dire la même chose par rapport aux politiques scolaires. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ce que vous avez dit aussi, la question de ce qui est dit et ce qui est désigné, la façon même de construire les divisions de la société à travers le discours politique est un aspect fondamental de ces discours politiques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas d'effet, mais n'oublions pas qu'ils ont aussi cet effet-là, hein, et que ça a des effets directs à la fois sur l'ensemble du corps social, mais aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de l'école, sur le comportement des acteurs, sur le cadrage des interactions entre les acteurs. Ça a des effets tout à fait directs sur l'interprétation de ce qui se passe dans l'établissement, etc. Donc, après, ça devient des enjeux, quoi. Ça devient, et imaginons même, c'est un truc que j'avais prévu de dire, donc j'en profite aussi, imaginons même que Sarkozy y aille vraiment, il va le faire un peu. Qu'est-ce qui va se passer? Ça répondra aussi un peu à la question d'avant. Il va lancer son truc. C'est ce qu'il a fait l'autre fois, d'ailleurs. Il avait commencé par dire suppression des allocations familiales, et puis ensuite, il y a eu un tollé. Donc, on a mis en place une commission sur le manquement à l'obligation scolaire. Voilà. Et puis, il en est sorti que, bon, ben, non pas les allocs, mais en même temps, on va mettre en place un autre dispositif. Donc, crac, on met en place... un autre dispositif. Qu'est-ce qui peut se passer par rapport aux allocations familiales? Il est probable que ce qu'il propose ne va pas s'appliquer totalement comme ça. Mais ça va s'appliquer sous une forme Martin Hirsch, si on veut, quoi. Ça va s'appliquer sous une forme main gauche ajustée qui permet de prendre quand même ces élèves-là à part, d'en faire quand même quelque chose, de les étiqueter comme tels, parce qu'ils relèvent de tel ou tel problème, tels qu'ils ont été désignés, et après, de mettre quand même en place une politique qui, de fait, accompagne cette évolution globale et convergente des différents secteurs que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a ça. Et pendant qu'on a fait ça, on a créé un peu de dispositifs supplémentaires, on a continué à faire avancer l'institution scolaire dans cette voie-là, au lieu de la faire avancer dans un autre sens. Et en même temps, il y a eu cet effet proprement discursif qui consiste à désigner et à définir la société de telle ou telle façon.
Je voudrais rebondir un peu, moi, par rapport à la question que vous aviez posée sur le sujet. En rappelant qu'il y a plusieurs façons de produire de l'individu. Il y a des façons de produire de l'individu qui peuvent être des subjectivantes et d'autres qui peuvent être subjectivantes. C'est-à-dire qu'on a quand même des logiques qui s'affrontent. Et donc, quand on parle d'individualisme dans notre société, on peut le qualifier comme étant positif ou comme étant négatif selon l'angle d'approche et la façon qu'on a de le concevoir. Mais c'est vrai que l'individualisme démocratique... qui produit du citoyen, donc qui produit de l'individu citoyen, c'est un individualisme valorisé dans notre fonctionnement politique, qui débouche sur les valeurs de solidarité, une conception du fonctionnement social qui met en interrelation les individus, avec tout ce que cela sous-entend, il est effectivement à différencier d'un autre type d'individualisme qui peut être qualifié plus de néolibéral, qui renvoie non plus à la figure du citoyen, mais beaucoup plus à celle du consommateur. Donc moi, je ne critique pas la figure de consommateur. Hein. C'est très intéressant de pouvoir consommer plein de produits. Hein. Mais c'est peut-être pas suffisant. C'est-à-dire que cette figure du consommateur, elle peut être aussi... elle renvoie aussi sur le plan de la responsabilité collective à une sorte de déni et à la surresponsabilité individuelle. Et donc la façon dont le néolibéralisme produit de l'individu, effectivement, elle conduit à désubjectiver, alors qu'il y a d'autres façons de produire de l'individu dans le système démocratique. Et c'est aussi ce qu'essaye de faire le système scolaire et aussi le système familial, mais avec qui sont traversés par toutes ces contradictions. Qui font qu'on est confronté à un fonctionnement complexe. Donc, effectivement, vouloir donner une causalité unilatérale d'un phénomène, c'est complètement aberrant. Mais ça fonctionne bien au niveau du discours politique. Alors que, bien sûr, les scientifiques sont revenus de tel déterminisme.
Et j'ai envie de rebondir sur un point par rapport à la théorie du sujet, justement, et enfin, puisqu'on est avec un public à la fois de chercheurs, d'étudiants, de militants, sur, à mon avis, enfin c'est une hypothèse, mais il me semble que la gauche manque cruellement d'une théorie du sujet, justement. Comment ça tient un sujet, la droite, tranquillement, effectivement, avance sur ce modèle du consommateur, c'est-à-dire un sujet se construit, il y a le modèle du management, le modèle de l'entrepreneur, le modèle du riscophile, CF les travaux de Castel sur voilà, la valorisation de celui qui prend des risques. La droite a une théorie qui paraît sommaire, rustique, ou tout ce qu'on voudra à ceux qui ont lu Bourdieu et la psychanalyse, mais n'empêche qu'ils ont une théorie du sujet, et me semble-t-il, à gauche, ou en tout cas dans la gauche politique, je vois peu d'alternatives. Voilà. C'était une remarque.
Merci beaucoup. Donc nous faisons une petite pause et nous nous retrouvons à 16h30 pour...